devant vous qui aimeriez en apprendre davantage sur la mémoire traumatique, je vais expliquer certains mécanismes psychiques relevant des traumatismes, appelés plus souvent trauma dans le milieu psy. Ce sujet peut intéresser quelqu'un qui cherche à se venir en aide, mais qui ne sait pas au juste comment s'y prendre. Je vais tâcher de l'aider à aborder certains aspects de son propre comportement, de certains réflexes, mais aussi du comportement de proches qui, jusqu'à présent, lui ont semblé énigmatiques, insupportables parfois, mais qu'il pouvait endurer en se disant « c'est comme ça ». Je vais donc vous décrire différents mécanismes psychiques concernant la mémoire traumatique pour que vous soyez davantage en mesure de comprendre ses effets au quotidien. Les attentats ont remis la notion de traumatisme en avant et rares sont les personnes qui désormais n'y pensent pas lorsqu'ils pensent aux victimes directes et indirectes. C'est une bonne chose parce que cela aide ces personnes à prendre au sérieux les possibles conséquences psychiques de ce qu'elles ont vécu, même si elles vont bien, c'est-à-dire généralement elles sont en vie. Mais les attentats récents ne sont pas les seuls événements traumatiques, ceux qui ont été subis par un individu plusieurs décennies auparavant peuvent par exemple être d'autant plus dangereux et nocifs qu'ils ont été passés sous silence et que l'individu a vécu avec, sans en parler à qui que ce soit. Enfin, je cherche aussi à vous sensibiliser à l'importance de ce que l'on nomme transmission intergénérationnelle de trauma, dont un individu n'a pas toujours conscience ou dont il peut minimiser les conséquences. Je pense par exemple aux héritages de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de la Première Guerre mondiale, mais aussi des guerres plus récentes. Je pense aussi à ceux qui, originaires par exemple du Portugal, ont eu des parents qui ont subi la dictature ou qui ont combattu en Angola, ou encore originaires de Roumanie, qui ont vécu avant la chute du communisme et qui ont vécu donc le bouleversement des valeurs et des repères qui a accompagné cette période. En somme, je pense à tout héritage historique au cours duquel une lignée a été confrontée au crime, à la privation de liberté, dans des sociétés en guerre ou totalitaires. Donc la première partie de mon intervention va se centrer sur la description et une introduction aux différents mécanismes psychiques pour faire face au traumatisme psychique. Donc, c'est-à-dire, c'est les réflexes que l'individu a pour se défendre, ce qu'on appelle des mécanismes de défense, parce que l'individu est bien fait, il réagit pour se protéger. Mais c'est très coûteux. Coûteux, c'est-à-dire que ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc, je vais vous y introduire. Les définitions des traumas psychiques se rejoignent, notamment sur l'excès de tension et de violence qu'un individu ne peut accueillir en tant que sujet et qui lui enlève, outre les moyens immédiats de réagir, parce que c'est trop, les moyens de les penser, même dans le temps. C'est un obstacle principiel, ça c'est ce qui définit les traumas psychiques. Comment éviter l'impact psychique des expériences traumatiques et qui s'inscrivent chez l'individu sous forme de différentes mémoires traumatiques ? Lorsque nous évoquons l'inceste, ou le viol, ou la torture, ou la tentative d'homicide, mais aussi le fait d'être témoin de ces actes, ces expériences désignent des expériences de mort imminente, ou de destruction du sujet en tant que tel. Mort imminente, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on va disparaître, mais après on est là. Mais ce « là », cet être-là, n'a plus rien à voir avec l'être qui précédait cette expérience traumatique. Donc c'est pour ça qu'un individu peut avoir la sensation et la certitude de ne plus être lui-même, que ce lui-même a disparu, qu'il est mort. Il peut sentir que ses liens aux autres, proches ou non, ont été brisés, donc que la capacité à créer du lien a été brisée. Ces situations engendrent des traumatismes psychiques spécifiques dans la mesure où un sentiment de solitude immense, voire définitif, ce sentiment, est ressenti. L'autre, celui avec lequel on peut dialoguer, ou auprès de qui on cherche à trouver de l'aide. Quand on ressent de la détresse, celui dont la présence permet de se ressourcer, cet autre, c'est-à-dire l'idée qu'il y a quelqu'un auprès de qui on peut trouver ça, a disparu. C'est-à-dire qu'on a la certitude qu'il n'est plus là, qu'il ne peut plus exister. Mais ces réactions de repli psychique peuvent aussi être léguées en héritage, à travers la parole, hein, dans la vie, on est seul, absolument seul, ou à travers du silence, sous forme de transmission intergénérationnelle de trauma. Ainsi, des personnes dont les grands-parents ont, par exemple, vécu des deuils catastrophiques, comme par exemple la perte d'un enfant assassiné pendant une guerre, ont pu recevoir en héritage ces expériences de mort et de survie de diverses manières. On le voit tout de suite, il n'est finalement pas facile de parler de trauma au singulier, car ce dernier peut résonner avec d'autres traumas différents, vécus par le passé, qu'on croyait dépassés, ou avec des expériences traumatiques proches, d'une manière inquiétante, c'est-à-dire lorsque, par exemple, il y a des choses qui se répètent chez un individu ou d'une génération sur l'autre. Non élaboré psychiquement, on verra de quelle manière l'intensité des traumas psychiques ne s'atténue pas d'une génération à l'autre, mais elle se transforme. Donc le temps ne résout pas les choses au niveau de la question des traumas. Une difficulté réside notamment dans le fait que le repérage du lien entre les traumas psychiques dont souffre un patient et les événements qui sont à l'origine, plus c'est éloigné, plus ça devient difficile à saisir. La clinique, c'est-à-dire les histoires et les situations psychiques auxquelles je suis confrontée comme psychologue et analyste, renvoie davantage à un réseau de ramifications des traumas les uns par rapport aux autres et à différentes approches des traumas. Quand on en sera aux questions, je développerai sans doute ce point avec vous. Tenter de tenir le plus compte de ces imbrications, de ces résonances, en fait de ces différentes approches, même d'un même trauma, semble de ce fait plus approprié. Alors, je vais vous montrer différentes formes de mémoire traumatique en partant de ce qu'on appelle une réaction traumatique. Et ensuite, je vais tâcher de changer de cadrage en incluant à chaque fois une dimension supplémentaire. Donc je commence par aborder le trauma en tant que tel. Il peut se passer un temps certain entre le moment où une expérience traumatique est vécue et celui où le trauma psychique est perçu, que ce soit par l'individu lui-même ou par son entourage. Perçu, c'est-à-dire pensé, abordé. Une rupture dans la temporalité advient qui crée un fossé entre une période passée, désignée a posteriori comme un avant, et ce que l'on appelle couramment un après. Ça fait une fracture, une rupture. Sur quelles propriétés des traumas psychiques repose ce caractère inaudible? On n'arrive pas à l'entendre par l'entourage, inaudible par l'entourage, inaudible par la société, y compris parfois par ceux qui sont en position de thérapeute. Il y a des rescapés qui disent « Oui, mais on a essayé d'en parler, on ne nous a pas entendu. » Du coup, on a arrêté de parler, puisque c'était inaudible. C'est devenu indicible. Certains parlent d'impensable et s'autorisent de ce fait à ne pas y penser. J'adopterai une autre position, plutôt une position comme Imre Kertész, qui s'indigne d'un tel propos. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir pour effet d'arrêter là toute la pensée, tout échange concernant les choses qui se sont bel et bien passées. Donc ça peut être impensable, mais c'est arrivé. Donc est-ce qu'on peut s'en tenir à ce terme d'impensable? Et du coup, cette position nourrit des résistances sociales qui sont parfois aussi dures à supporter que l'événement en question. Quand on n'en veut rien savoir en plus, c'est encore plus terrible. Ce propos contient pourtant, il faut l'admettre, une part de vérité. Une expérience traumatique détruit effectivement bien souvent la capacité de penser cette expérience, y compris donc, comme je vous l'ai dit, chez celui qui l'a subi. Mais si on s'en tient à ce positionnement qui témoigne, c'est un positionnement qui témoigne, si on interprète cette parole si on s'en tient à ce positionnement qui témoigne d'une souffrance si extrême qu'elle ne trouve pas les mots pour être pensée, et qu'elle n'a plus toujours accès aux sensations, même pour être ressentie, parce que l'individu, il peut aussi se mettre, ne plus être capable de ressentir les choses, eh bien on se met à refuser, consciemment ou pas, de venir en aide à cette personne. Ce qui n'est pas possible, en tout cas, de ma position de thérapeute. L'expérience traumatique, qu'il s'agisse d'un viol, d'une agression sexuelle commise sur un enfant, d'un homicide volontaire, sous une forme ou sous une autre, brise le processus de formation de la symbolisation. C'est-à-dire qu'il détruit par conséquent non seulement les possibilités de communication avec d'autres, avec les symboles, c'est quoi les premiers symboles? Mais c'est les mots, c'est le langage. Et avec soi-même, c'est-à-dire la possibilité d'y penser. Il correspond à ce qui relève de l'irreprésentable, c'est-à-dire, donc je le répète, de l'impossibilité à symboliser et d'entrer dans la sphère du langage. C'est pourquoi des individus qui ont vécu des expériences traumatiques peuvent avoir un comportement perturbé à travers lequel, à travers les perturbations, donc c'est à travers les perturbations qu'ils montrent des éléments de ce qui a brisé leur existence. Des psychanalystes comme Françoise Davoine et Jean-Max Gaudière commencent leur ouvrage « Histoire et trauma » en disant « Ce qu'on ne peut dire, on ne peut le taire. » On ne peut pas le dire, mais on ne peut pas le taire. Donc on passe par le fait de montrer ces propos. Voilà. Donc, on montre jusqu'à ce que des mots et des pensées puissent à nouveau avoir prise sur ces actes. Ces perturbations peuvent à leur tour troubler ceux qui les voient. Cette dimension spectaculaire de ce qui est montré par ces perturbations peuvent, par exemple, les fasciner. Regarde comme il est, non seulement il est gros, il est énorme. Regarde comme il est gros. Regarde comment elle se trémousse comme ça, elle est à moitié nue. Qu'est-ce qui se passe? Et justement, on oublie de se demander ce qui se passe. On regarde et on est là, ah, quand même, trop gros, quand même, trop dénudé. Au lieu de s'interroger sur un abord de ces événements comme des symptômes massifs qui cherchent à apporter une réponse à un mal-être. Par exemple, il peut arriver qu'une personne obèse, et effectivement, qui passe son temps à manger, qui ne passe son temps à penser à la nourriture, cherche avant tout à faire disparaître son corps derrière cette muraille de graisse pour se protéger. Elle peut avoir été abusée sexuellement à un moment ou un autre de son existence et se protéger de cette manière. Vous voyez, donc il faut, quand on essaie de réfléchir au trauma, on essaie de dépasser ces apparences qui est montrée ou la violence de ce que nous fait ce qu'on voit. Hein ? Pour prendre un autre exemple, un individu qui ne s'intéresse qu'à lui-même, qui ne pense jamais aux autres, et dont la violence, lorsqu'il s'emporte, peut être dangereuse, peut se rattacher, donc c'est les symptômes qu'il manifeste, peut se rattacher à des symptômes post-traumatiques, surtout s'il a vécu, par exemple, des expériences de guerre, d'une violence extrême. Donc il ne s'agit pas ici de déresponsabiliser les individus, mais de mieux comprendre la situation afin de contribuer à la faire évoluer, et non pas de la cimenter, de la conforter de cette manière. À l'inverse aussi, on peut prendre des choses aussi sous une autre manifestation, puisqu'il y a un spectre très vaste de manifestations, quelqu'un peut montrer et mettre sur la piste du trauma en parlant de choses horribles, comme s'il s'agissait de choses triviales. Par exemple, quelqu'un peut vous dire à table, comme ça, « j'ai été attaqué, je suis tombé dans le coma pendant plusieurs semaines. » Ou bien, « ah oui, mes grands-parents, ils ont été assassinés par les nazis. » Voilà. Ces paroles dramatiques peuvent être énoncées de manière anodine, voire avec un certain sourire, avec tant de détachement que celui qui écoute ne sent plus du tout d'affect rattaché à ses propos précis. Semblable personne semble vaccinée, devenue insensible avec le temps. Ou du moins, c'est ce qu'on a tout d'abord tendance à croire. Et d'ailleurs, celui qui écoute peut se sentir dans un état particulier, lui aussi excessif, extrême, complètement bouleversé parce qu'il a entendu, ou bien complètement insensé en disant « j'ai entendu ça et je ne réagis pas, qu'est-ce qui m'arrive ?» Alors, les différentes formes de mémoire traumatique, eh bien, je vais vous les énoncer d'une certaine manière, parce qu'il y a toujours différentes manières d'aborder ces questions-là. Je les ai trouvées énoncées très clairement et de façon très pertinente, c'est-à-dire qui permettent de voir un petit peu les mouvements qui sont possibles chez l'individu plutôt que des choses figées. Chez un psychanalyste qui s'est intéressé donc au trauma psychique, à la transmission intergénérationnelle de trauma et dont j'ai traduit certains articles de l'anglais, qui s'appelle Dory Loeb, qui a pris la peine de faire une gradation de différentes formes de mémoire traumatique qui se touchent, qui s'imbriquent. Ce n'est pas justement des séparations hermétiques, puisque la psyché utilise recours à différentes manifestations tout le temps. Et donc vous verrez que c'est dans une certaine progression qui part du fait de ne pas du tout avoir accès à la connaissance, au souvenir de ce qui nous est arrivé, jusqu'à une certaine possibilité de le métaphoriser. Donc il parle du non-savoir, il appelle ça le non-savoir, être dans le non-savoir. Je vous donnerai à chaque fois des exemples. Ensuite, il parle d'une fugue, on verra tout ça, je vous donne quelques termes mystérieux qu'on va élucider ensuite, de fragments, de phénomènes de transfert, de récits envahissants, de thèmes de vie, de récits de témoignages et du trauma comme métaphore. Alors qu'est-ce que c'est que cette première forme qu'on appelle le non-savoir ? Je commence par vous parler de cette forme extrême parce que parfois, plus un événement est traumatique, moins on est en mesure de l'affronter à l'aide de sa pensée. Et donc, du coup, la mémoire nous protège quelque part, elle le met hors d'accès, tellement c'est insupportable. Donc le contenu, il a été séparé du moi. Et je vous propose un nouveau terme, plutôt que refoulé, puisque justement celui-là, il est dans la sphère du langage, souvent, et du symbole. Je vous propose le terme retranché. C'est un vieux terme que des psychiatres de guerre, des psychanalystes, ont utilisé dès la Première Guerre mondiale, notamment le docteur Rivers, pour dire que c'est complètement inaccessible, ça a été soustrait, retranché, isolé d'une manière qui le rend inaccessible, mais qui s'avère radioactif. C'est un autre terme qui me semble pertinent, que j'emprunte à une personne qui s'appelle Yolanda Gampel. Radioactif, pourquoi ? C'est-à-dire qu'on met des limites, donc on n'a plus accès, puisqu'il y a des limites, mais ça transperce les murs, c'est-à-dire que ça transperce les époques. Ça ne connaît pas de limites, mais sous une forme de plus en plus abstraite, puisque ça a été isolé. Donc, l'individu n'en a gardé aucune trace, consciente, mais le corps peut quand même en témoigner. Le corps, c'est-à-dire aussi les affects, ce qu'on ressent, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est une angoisse insupportable, et à chaque fois qu'on cherche, on ne trouve pas. On ne trouve pas d'où ça vient. Alors, Dory Loeb, pour illustrer ce propos, prend l'exemple d'une femme qui a perdu son premier enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort, il n'a pas été tué, mais il est mort soudain dans un ghetto. Et ensuite, elle n'y a plus jamais pensé. Ça veut dire quoi ? C'était un événement tellement dur qu'il est parti dans une autre temporalité et qu'elle, elle a continué sa vie. Elle a refondé une famille, elle a eu d'autres enfants. Et puis, tout à coup, elle parlait de ses enfants d'une manière discordante. Il allait y avoir des bons événements, elle a des amis, elle est entourée, et elle a une angoisse omniprésente qui la tenaille. Et au fur et à mesure, le thérapeute, qui se dit qu'il y a quelque chose d'autre dans tout ça, eh bien, finit par l'aider à accéder à ce souvenir. Elle disait « Je n'y ai jamais plus pensé ». Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas envie, qu'elle disait « Oh non, plus tard ». Ça veut dire que c'était inaccessible jusque-là. Et donc, ça permet... une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dory Loeb, il ne risque pas de rouvrir la plaie, supposée s'être refermée, en termes psychiatriques, de déclencher quelque chose qui s'était stabilisé ? Son récit montre plutôt, et en tant que clinicien, j'irais plutôt dans son sens, que ça lui permet avant tout de reconnaître c'est-à-dire de percevoir d'où ça vient, et donc de mieux comprendre à quoi l'angoisse qui envahit son quotidien est en fait rattachée. Si ça lui permet de comprendre des déplacements d'affect sur ses enfants actuels, eh bien ça permet aussi de libérer un petit peu cette relation de cet événement-là, et de le remettre à sa place, de lui retrouver une temporalité. En somme, cet échange thérapeutique permet à cette femme, mais aussi à cette famille, d'être moins hantée par ce qui, jusque-là, existait sous la forme d'un non-savoir traumatique hors espace-temps et qui, de ce fait, diffusait en permanence sa teneur traumatique. Donc, cela peut contribuer à faire un deuil, c'est-à-dire à vivre l'actuel sans être en permanence entravé par le passé, sans l'oublier. Au contraire, en le faisant entrer dans du langage, en le partageant avec les proches aussi, par exemple. On peut parler ici donc de phénomène, je vous ai parlé d'isolement, ça a un terme précis qui semble assez pertinent, celui d'encapsulement. Hein, vous voyez l'idée de capsule, mais c'est quand même pas qu'une capsule, c'est une capsule particulière parce qu'on est dans la réflexion sur le trauma, où vous avez quelque chose qui isole, mais avec cette idée donc de propriété qui relève de la radioactivité, c'est-à-dire que il y a la force, la destructivité du trauma qui s'échappe. Donc on n'a pas accès au contenu qui a une forme, qui est rattachée à tel type d'événement, mais à ce qui s'en échappe sans forme, justement. Mais ça se fait de manière plus ou moins extrême. Ça, c'était la forme la plus extrême. Ce qu'on appelle état de fugue, et ensuite ce qu'on appelle fragment, je vais vous expliquer ça rapidement. Donc parfois, les gens donc, n'ont pas toujours conscience de ce qu'il est happe, et les films jouent pas mal sur ces jeux de mémoire avec les flashbacks, ou avec tout à coup on filme quelqu'un qui a des yeux comme ça, grand ouvert, qui se fige, et puis on lui dit eh oh. Et parfois le scénariste nous montre les images auxquelles il pense, et puis parfois il ne les montre pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il en fait l'économie, mais parfois quelqu'un est tellement happé par cette temporalité qu'il n'est pas sûr qu'il sache toujours où il se trouve. Tellement la frontière est radicale. Il est ailleurs, et ensuite il est ailleurs. Vous voyez ? Et donc ça ne communique pas nécessairement. Là je pense au film Apocalypse Now. J'ai essayé de trouver aussi des références qui pouvaient être accessibles facilement pour vous si vous intéressez à la mémoire traumatique. Cet individu parle assez peu, ne parle jamais de ce qu'il a vécu, et de temps en temps est complètement projeté ailleurs. Et ensuite revient le tout en silence. Simplement, il a une certitude, c'est qu'il ne pourra plus jamais rentrer chez lui en se sentant chez lui et en se sentant en paix. Voilà, il a l'impression que la dimension de chez soi, elle a disparu. Les fragments, ils désignent, donc c'est assez proche, une manière d'être parasité dans son quotidien sans nécessairement comprendre d'où ça vient. Donc le lien avec l'événement traumatique, il n'est pas facile à attraper, à saisir. Mais par exemple, il peut y avoir des événements qui semblent anodins à tout le monde. Et pour telle personne, ça peut la mettre dans un état d'angoisse particulier. Et si on réfléchit, si on cherche, eh bien on peut trouver des éléments de ce moment-là où l'angoisse est apparue qui sont rattachés à des moments d'angoisse très importants. Par exemple, un individu peut entendre un bruit anodin pour la plupart des gens, mais qui le met dans une sensation de danger immédiat. Alors, on peut penser... par exemple, à des personnes âgées qui ont peur du tonnerre. Hein ? Alors ça, parfois, on sait plus précisément à quoi c'est dû. Les personnes en ont conscience. Elles ont entendu des bombardements, ils étaient des enfants, et depuis, le tonnerre a toujours été rattaché à ce contexte de guerre. Même si on sait raisonner. C'est pour ça que c'est compliqué, cette clinique du trauma, puisque... Faire ce lien n'a pas suffi quand même. C'est-à-dire qu'il faut faire encore autre chose. Donc, on voit que l'individu peut vivre dans plusieurs temporalités. Hein, je vous ai montré qu'il pouvait être ailleurs. Mais cet ailleurs, il est vécu quand même au présent. C'est pour ça que je vous propose d'imaginer que quelqu'un vit à la fois au présent, hein, il a une vie assez... il peut ne pas être marginal et avoir un métier, une famille, des enfants, et aussi dans l'actuel du trauma. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a un pan de sa vie qui se déroule. Quelqu'un reste prisonnier dans tel lieu, avec telle personne, qui n'existe plus nécessairement, qui ont pu être tués. Et c'est ce qui amène, par exemple, donc Yolanda Gampel, qui parlait de la radioactivité traumatique, qui précise que le passé apparaît au présent, il sature le présent, c'est-à-dire qu'il se dissout partout dans le présent, peut empêcher des perceptions, c'est-à-dire qu'on est tellement happé par ce passé-là qu'on est plus sensible à ce qui nous entoure et peut empêcher des expériences émotionnelles. On est plus disponible, on est plus accessible. Ils vivent dans un monde où ce qui est n'est pas, où ce qui n'est pas est. Donc c'est très compliqué de voir où se trouve vraiment quelqu'un. Parfois on dit, mais alors tu es là, tu es à côté de moi, tu penses à quoi? Tu penses encore là-bas, mais c'est fini, mais ça ne suffit pas pour amener quelqu'un dans ce présent et dans un partage disponible. Donc l'événement traumatique n'est pas directement rattaché à l'expérience du sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est tellement excessif qu'il ne peut pas être là à l'affronter tout de suite, c'est après que ça peut se passer. Et parce que sinon, il aurait pu être possible de recourir aux mécanismes de refoulement qui rend inconscient des états psychiques et qui permet ensuite de les réaborder parce qu'il y a déjà eu un processus de symbolisation en marche. Donc, sans cette intégration, il peut être à la fois rattaché à cette sphère à du savoir et du non-savoir. C'est-à-dire qu'on peut en savoir quelque chose, et puis on peut ne pas en savoir tellement de choses qu'on est toujours envahi à certains moments, qu'on ne maîtrise pas par des états de très grande angoisse, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène de transfert? Ce phénomène de transfert, eh bien, il peut mettre en péril l'équilibre psychique d'un individu, puisque des scènes très très dures peuvent avoir été vécues dans le passé et on les transfère dans d'autres scènes actuelles qui sont différentes. Donc c'est très difficile de les reconnaître. On ne peut pas dire ah oui mais ça c'était à tel moment, parce que ce qui a été transféré dans l'expérience traumatique, c'est quelque chose à quoi on ne peut pas avoir accès immédiatement. Là je peux penser à Et ça peut prendre des formes quasi délirantes, le délire signifiant qu'on n'a pas compris ce qui rattachait un certain comportement à la réalité. Là, je pense à quelqu'un qui était persuadé, donc c'est encore Doris Loeb qui en va, que ses voisins voulaient la rendre folle en faisant du bruit au-dessus de sa tête avec des coups de marteau. Il n'y avait pas de coups de marteau. Et puis, il ne cherchait pas à la rendre folle. Mais elle avait cette sensation, cette certitude qui l'a parasité dans son quotidien, et un lien a pu être fait avec un souvenir d'enfance de persécution où des gens jetaient des pierres dans les carreaux de ses volets en faisant des bruits que lui rappelaient les bruits qu'elle entendait de chez ses voisins. C'est-à-dire qu'elle a utilisé certains bruits pour montrer quelque chose de ce trauma profond qu'elle avait vécu enfant. Ça va? C'est clair? La question des images traumatiques est aussi assez importante parce que elle peut, voilà, ça parle à pas mal d'individus. Cette question d'être, quand on pense à quelqu'un par exemple, d'être coincé dans telle image désolante, terrible. Par exemple, la vision du dernier moment de personnes qui sont chères fait que parfois se mêlent amour, mort, mais qu'on n'arrive plus à enlever la mort de cette relation à cet être cher, et que du coup, ça empêche d'accéder au moment heureux et au moment vitalisant qui ont pourtant été partagés avant. Hein, quand quelqu'un voit un membre de sa famille se faire assassiner, là, eh bien, cette image peut lui barrer l'accès aux autres souvenirs qui ont précédé. Il n'arrive plus à penser à l'avant et cette image revient comme ça dans son existence. Et crée aussi notamment un sentiment de culpabilité, puisque lui, il l'a survécu et pas cette personne chère. Alors, concernant maintenant la question des héritages traumatiques, que pouvons-nous nous dire au niveau des descendants ? Lorsque des événements traumatiques ont été vécus par les générations précédentes, il peut devenir difficile de percevoir, parce que leur éloignement dans l'espace et dans le temps peut être utilisé pour s'en détourner. C'était loin. C'était très loin tout ça. Je n'étais pas née, en quoi ça me concerne ? Pourquoi insister alors sur ce point ? Parce qu'on vient de voir, sur un individu, les effets destructeurs d'une expérience traumatique. Mais quand cet individu-là, il a des enfants, il a une descendance, eh bien, il élève ses enfants avec qui il est, avec ce qu'il a vécu, avec ce dont il n'arrive pas à parler, avec ce dont il parle tout le temps parce que ça l'obsède aussi. Et donc, il transmet quelque chose de ce qu'il a vécu, donc de cet héritage traumatique. Ça devient aussi un héritage traumatique. Je vous propose de vous référer à un ouvrage d'un historien qui a fait un cheminement aussi sur lui-même après avoir étudié la Première Guerre mondiale. Donc, il s'agit de Stéphane Audouin-Rouzeau qui a écrit un ouvrage sur la Première Guerre mondiale intitulé « Quelle histoire ?» Mais un ouvrage qui parle de sa propre famille, de la manière dont un héritage traumatique a eu des conséquences sur les générations suivantes. Il décrypte patiemment avec des lettres, des documents qu'il a pu collecter avec sa technique d'historien, l'impossible réadaptation à la société civile d'hommes courageux, intelligents, qui ne se sont pas remis de ce qu'ils avaient vécu. Il montre l'incompréhension qui les entoure et la solitude dans laquelle ces individus se replient progressivement malgré eux. Donc il décrit aussi de quelle manière des symptômes post-traumatiques sont occultés par tout le monde, y compris ceux qui les ont vécus, en tant qu'ancien soldat, puisque personne ne pense à rattacher l'irritabilité, l'instabilité professionnelle apparue après la guerre. Personne ne pense à rattacher ça à ce qui a été vécu pendant la guerre. L'admiration, le sentiment d'admiration s'émousse et n'existe pas de la part des enfants. Ils voient que cet individu, il a raté sa vie, il n'arrive pas à subvenir à ses propres besoins, il n'a pas réussi à construire des choses. Mais personne ne s'interroge, ne fait le lien, n'arrive. Hein, ce n'est pas pour dire que c'est pas pour les juger, mais c'est pour vous expliquer combien c'est difficile d'y penser, de se dire, mais au fait, qu'est-ce qu'il a vécu à tel moment, ce courageux soldat qui s'est battu vaillamment ? Est-ce qu'il a vécu des moments d'effroi tels que on aurait eu besoin de lui venir en aide là-dessus ? Vous voyez ? Et donc, c'est ce qui conduit Stéphane Audouin-Rouzeau à préciser que personne, donc je cite, « personne dans son entourage, père, épouse, fils, ne comprit quelle faille s'était ouverte dans l'âme du très jeune homme, Robert, son grand-père, à l'issue de la montée en ligne du mois d'août 1916. » Lui, il a réussi à comprendre ces choses à travers une lettre qu'il avait écrite, à travers une description minutieuse qu'avait laissée en témoignage, hein, sans se rendre compte de l'importance que ça avait pour comprendre ce qui lui était arrivé, ce soldat. Donc ce spécialiste de la Première Guerre mondiale précise que, je cite aussi, parce que c'est justement un historien qui a reconquis ce pan de sa propre histoire, « seul un long travail sur le premier conflit mondial, sur les traumatismes des combattants, sur la lenteur et les faux-semblants de la sortie de la guerre, hein, quand on dit « ça y est, on passe à autre chose, c'est la paix », eh bien, lui a permis de comprendre que Robert ne s'était sans doute jamais remis de la Grande Guerre et que, par conséquent, celle-ci a eu des conséquences, des répercussions sur toute sa descendance, dans tous les liens. Les thèmes de vie, enfin, c'est pour vous montrer aussi de quelle manière quelqu'un peut se saisir de manière, d'une manière qui l'aide, qui l'accompagne dans son existence ou d'une manière pathologique, un questionnement qu'il sent chez ses parents. Donc, pour vous définir le thème de vie, ce serait une tendance chez les enfants de survivants, par exemple, pour prendre des caricatures qui sont valables, hein, ça, voilà, à devenir des travailleurs dans le milieu de la santé. Ils ont un intérêt pour les secrets, leur besoin de décoder et d'aider ceux qui en souffrent. Hein, des gens qui ont aidé leurs parents, qui ont senti que les parents étaient dans une grande souffrance, et puis qui, du coup, en font un thème de vie. C'est-à-dire qu'ils s'y consacrent, ça crée une vocation. Mais ça peut aussi être vécu sur un mode pathologique. C'est-à-dire qu'ils peuvent se mettre à chercher des choses qui, sans comprendre ce qu'ils cherchent, et qui les désocialisent. Parce que les parents ne sont pas parvenus à en dire suffisamment pour qu'ils comprennent pourquoi ils étaient dans cet état, quel monde vivant ils avaient vécu et aimé avant la destruction du milieu dans lequel ils vivaient, par exemple. Alors, tous ces traumas, ça provoque des perturbations dans les relations aux autres. Hein, des gens disent « je suis mort ». Ou pour être encore plus énigmatique, Bion, un grand psychanalyste, a dit dans les années 60, si je ne m'abuse, « je suis mort en 1917 dans tel lieu ». Vous savez ce qu'il disait quand même. C'était un psychanalyste reconnu, et bien il a écrit ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il aurait pu choisir d'autres termes. Hein? Donc on pense par exemple à la place pour des anciens combattants, parce que Bion était un ancien combattant, il avait beaucoup de distinctions honorifiques après, il a eu beaucoup de distinctions honorifiques après la Première Guerre mondiale, que la place du camarade, qu'on appelle aussi le buddy, eh bien pour survivre dans des conditions extrêmes est centrale dans la clinique des anciens combattants. Et que le vide laissé par ceux qui sont morts au combat ou dans ce contexte de guerre, eh bien l'est aussi. Ça me permet de dire que des anciens combattants, pour prendre cet exemple assez clair, sortent finalement difficilement de la guerre, même lorsque la paix civile est proclamée, que les valeurs de la paix sont réétablies, parce que leur reviennent en mémoire, par les différents processus mnésiques que je vous ai indiqués, des moments de la guerre qui rendent inaccessible, ou qui rendent abstrait, utopique, eh bien la notion de paix. Puisque la guerre, elle a été intériorisée, du coup. Elle continue à faire rage en eux. Et donc, que les processus de réadaptation à la vie sociale n'ont souvent pas été suffisamment pensés pour les aider à la réintégrer. C'est pourquoi, je reviens dessus, leur comportement, leur caractère, leurs réactions deviennent difficiles à comprendre par le corps social, qui n'a pas spécialement envie d'y revenir, hein, après la guerre, on tourne les pages généralement, mais y compris par des membres de leur famille qui peuvent décider de les accepter tels qu'ils sont après ce qu'ils ont vécu. Simplement, parfois, eh bien, on pourrait dire, ben non, on n'accepte pas, il faut qu'ils s'occupent, il faut en prendre soin, il faut les soigner, il faut faire quelque chose, vous voyez. Quelqu'un qui a vécu certaines expériences traumatiques peut aussi refuser d'être considéré comme une victime. Dire, je ne suis pas une victime. D'ailleurs, ce viol, c'est de ma faute. J'avais qu'à pas faire ci, ça. On dit, oui, mais quand même, c'est la personne qui a violé, qui vous a agressé. Ce n'est pas un argument. Hein. Ça peut être très important pour la personne, au début, de se reconstruire, de recourir à l'idée qu'elle n'est pas victime pour se reconstruire comme individu. De ne pas faire du statut de victime une identité. Et paradoxalement, le sentiment de culpabilité peut être présent chez celui qui a été victime de l'agression. Hein, je ne suis pas une victime, d'ailleurs c'était de ma faute. Hein, si j'ai eu cet accident en vélo, j'avais qu'à pas faire du vélo. J'aurais pas eu mon accident. Un chauffard ivre est innocenté en passant, mine de rien. Donc, ça a une... C'est un raisonnement qui ensuite risque de disculper la personne qui a bien commis cette agression. Une personne qui a travaillé avec des victimes de violences domestiques, qui s'appelle Judith Lewis-Herman, eh bien elle précise donc sans mystère que ce sont les victimes ici, pas les violeurs, pas les personnes qui ont commis ces viols, qui se sentent coupables. La culpabilité peut être comprise comme une tentative de tirer une leçon utile du désastre afin de recouvrer un sentiment de puissance et de contrôle, à minima. Et donc, l'idée de ne pas être coupable de ce que l'on a subi est exclue. Un tel positionnement relève, selon nous, donc d'un mécanisme de survie destiné dans un premier temps à rendre supportable quelque chose qui ne l'est pas. Pourtant, un processus est souvent à l'œuvre, même quand on décide de ne pas se considérer comme une victime et d'être responsable de ce qui nous est arrivé. C'est de s'identifier, je suis obligée de faire des raccourcis pour vous amener à une notion qui est complexe mais très, très importante justement dans ces mécanismes traumatiques, qui est celle de s'identifier de près ou de loin au discours de l'agresseur en tenant des propos qui lui sont proches. Vous voyez, quelqu'un qui a été violé, qui traite de pute la personne qui passe, qui a une jupe. Vous voyez, ce sera de sa faute si elle se fait violer, elle a qu'à pas. Donc elle relaie d'une certaine manière le discours d'un agresseur qui dit « Ah oui, hein, tu le voulais hein, avec ta jupe quand tu m'as guiché. » Vous voyez. Et donc c'est un renversement de situation puisque ça déresponsabilise l'auteur. Et donc ça passe par un phénomène de torsion du langage. Cet usage pervers des mots qui impriment dans l'esprit de la personne, bah, tu vois, bah, c'est parce que tu étais habillée comme ça que j'ai fait ça. Sinon, je ne t'aurais rien fait. Donc ça imprime bah, que oui, c'est de sa faute. Et à ce sujet, je voulais vous donner un petit exemple tiré de la littérature de nos grands classiques, si vous avez en tête Richard III. Alors, pourquoi Richard III ? Parce que Lady Anne, eh bien, elle se fait séduire donc, par Gloucester, qui tue son mari et qui, donc on a souvent coutume de dire, il la séduit devant la dépouille de son mari et puis il lui passe la bague au doigt. Alors on se dit, ah, quand même, quelle frivolité cette Lady Anne, quelle légèreté, elle se laisse séduire, c'est quand même mystérieux. Alors, je vous propose d'aborder Lady Anne comme une personne dont on a assassiné le mari et qui est complètement abattue. Hein, d'essayer d'avoir un petit peu cette empathie qui fait qu'on va du côté d'une scène catastrophique où quelqu'un se retrouve sans son mari et avec quelqu'un qui utilise l'extrême de la perversion du langage, non pas en essayant de la séduire, mais en la fascinant, c'est-à-dire qu'en la rendant inerte pour lui passer la bague au doigt pour ses propres intérêts. Elle dit, vas-y, tue-moi, puisque j'ai tué ton mari. Donc elle commence à lever une épée qu'il lui a tendue, et juste au moment où elle lève l'épée, elle dit, mais c'est ta beauté qui a fait que j'ai tué le roi. Et donc, elle imprime, pareil, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que c'est de sa faute. En fait, si Gloucester a tué le roi, c'est de la faute de Lady Anne. Vous voyez la torsion complète. Simplement sur le moment, une personne qui en est victime ne comprend pas cette manipulation-là, si sophistiquée. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça s'imprime. Et donc, elle se laisse mettre la bague au doigt et ensuite, elle disparaît.